Alors, comme promis,
on peut être
le scoop de la soirée.
Je vais vous expliquer déjà pourquoi je suis là, parce que ça peut peut-être vous étonner. En vous expliquant à quoi sert ce qu'est le contrôle général des privations de liberté et comment on fonctionne. Donc, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créé par une loi du 30 octobre 2007, et M. Delarue, le contrôleur général, a été nommé en juin 2008. Et donc, pour une période de 6 ans, il a un mandat unique et il est irrévocable. Alors, c'est une autorité administrative indépendante, c'est un petit peu comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou la HALDE, ou le médiateur de la République, ou la défenseur des enfants, sauf que ces institutions que je viens de nommer ont eu le malheur, on peut dire, d'être attachées aux défenseurs des droits, alors que nous avons échappé à cette situation. C'était il y a 2 jours, hein, la loi sur le défenseur des droits est passée il y a 2 jours. Donc nous restons autonomes, et donc nous restons, ce qui garantit le fait qu'on n'ait pas été rattaché aux défenseurs des droits, ce qui nous donne une légitimité, je pense, supplémentaire. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a besoin d'un contrôleur général de la privation de liberté en France, en application du protocole des Nations Unies et indépendant. Alors, donc après M. Delarue, en 2014, il y aura un deuxième contrôleur général de privation de liberté. Alors, la loi prévoit que nous pouvons visiter tous les lieux où les gens sont privés de liberté, donc les établissements pénitentiaires, et parfois la presse dit que M. Delarue est le contrôleur général des prisons. Ce n'est pas le cas, puisque nous visitons également les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les dépôts des tribunaux de grande instance, les centres de rétention pour les étrangers, les hôpitaux psychiatriques du fait de la loi de 90 pour les personnes donc hospitalisées sans leur consentement, les centres éducatifs fermés, je crois que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, et le centre de rétention de sûreté, par exemple, dont vous avez parlé. Et la loi n'étant pas exhaustive, si le législateur venait à inventer d'autres lieux de privation de liberté, nous pourrions y être amenés, être amenés à les visiter. Alors, nous faisons des visites, faisons 150 visites par an. Depuis septembre 2008, nous avons visité 350 lieux. Sur le plan de la santé, je vous ai apporté juste ça pour que vous ayez une idée. Au 15 mars 2011, on a visité 14 centres hospitaliers où il y avait des secteurs de psychiatrie, 18 établissements de 18 EPSM, et puis on a visité 2 UMD, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, 13 hôpitaux où il y a des chambres sécurisées pour les détenus, 3 unités médico-judiciaires, l'établissement public de santé de Fresnes, et puis 6 UHSI qui sont les établissements pour les soins somatiques pour les détenus. Voilà, donc ça fait 56 sites sanitaires, plus évidemment les établissements pénitentiaires et le reste que je ne vous cite pas. Voilà, alors ça c'est notre mission. Nous établissons des rapports qui sont publiés sur le site cglpl.fr, et donc vous pouvez, si vous allez sur ce site, voir tous les rapports qui sont publiés sur le site. Ces rapports sont publiés quand la procédure est terminée, c'est-à-dire nous envoyons un rapport d'abord au directeur de l'établissement que nous venons de visiter. La semaine dernière, nous étions à Valenciennes. Donc quand le rapport sera rédigé et validé par M. Delarue, il sera envoyé au directeur de l'hôpital de Valenciennes. Ensuite, le rapport s'appellera le rapport de visite. Il aura des observations, aussi bien sur des choses positives que sur des observations négatives que les contrôleurs qui se trouvaient à Valenciennes ont à formuler. Et ce rapport sera transmis au ministre de la Santé, des Affaires sociales. Et le ministre a 2 mois pour répondre à ces observations. Si M. Delarue considère que ça n'est pas satisfait de la réponse du ministre, il peut faire des recommandations au journal officiel. Et il a fait jusqu'à présent, en psychiatrie, seulement une seule recommandation pour le centre hospitalier Esquirol à Limoges. Mais quand toute la procédure que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le rapport de constat, le rapport de visite, les réponses des ministres, tout ça, quand c'est terminé depuis plus d'un an, les rapports sont en ligne sur notre site. Donc vous avez un certain nombre d'hôpitaux psychiatriques ou de centres hospitaliers où il y a des services de psychiatrie qui sont publiés sur le site. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait. et on publie également des avis, je dirais un peu transversaux, sur un certain nombre de sujets. La plupart des avis jusqu'à présent étaient sur les prisons. On a fait un avis sur les biens des détenus, on a fait un avis sur le téléphone, on a fait un avis sur le courrier. Et le scoop, c'est que demain matin, paraît au journal officiel, un avis sur les HO, qui était très attendu par la profession, et un avis sur l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, ce que je peux vous dire qu'on recommande la fermeture de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Alors ça, c'est vraiment un scoop, parce que le médiateur de la République avait fait, je ne sais plus en quelle année, j'étais encore à Fleury, donc ça doit être en 2005 peut-être, il avait essayé de fermer l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en vain. La recommandation donc, qui paraît demain au journal officiel, donc vous allez sur le site du journal officiel, hein, je ne pouvais pas vous l'apporter parce que c'est pas sorti, c'est demain. Vous allez sur le site Légifrance, hein, et vous allez journal officiel du jour, donc ce sera journal officiel du 18 mars. Demain, et vous aurez le journal officiel de la République française, vous déroulez tout le journal officiel et vous avez un site qui est contrôleur général et l'occupation de liberté. Et vous aurez l'avis sur les hospitalisations d'office et l'avis différent sur l'infirmerie psychiatrique. Voilà. Alors, également, pourquoi je suis là? Parce que chaque fois qu'il y a un colloque qui paraît intéressant au contrôleur général, soit il y va lui-même, soit quand c'est sur la psychiatrie, il m'envoie, parce que il est très intéressé de voir ce qui se dit partout en France sur justement les débats, sur les sujets qui intéressent la profession dans son ensemble. La semaine prochaine, je vais à Charleville sur un colloque sur l'éthique en psychiatrie. J'étais au mois de décembre, je crois que certains d'entre vous m'ont vu à Lille, sur psychiatrie et justice, voilà. Donc on essaye d'être attentif à tout ce qui est débat sur la psychiatrie, soit on est invité à parler directement, soit on vient écouter, comme c'était pour moi le cas ce soir, sauf que je voulais quand même vous apporter cette information importante. Bon, l'avis sur les hospitalisations. Alors, sur les hospitalisations, j'ai quand même un tout petit mot à dire, si vous avez encore une minute de patience. Alors, sur les internements arbitraires, sur la situation en France, j'ai un regard quand même maintenant un petit peu national, voire aussi, parce qu'on va aussi dans les DOM, hein, on est allé en Martinique, en Guyane, à La Réunion et en Guadeloupe, et à Mayotte, pardon. Donc on va quand même un peu partout. Le regard qu'on a, c'est que dans certains départements, alors l'avis concerne notamment la question des détenus, hein, de l'article 398 du Code de procédure pénale, aussi bien dans la façon dont ils sont reçus, accueillis, je ne sais pas si on peut dire accueillis, pris en charge dans les hôpitaux dans le cadre de cet article du Code de procédure pénale, mais également dans le fait que certains préfets ne mettent un certain retard, je crois que c'est le cas dans le département du Nord. Nous avions été saisis par Pierre Thomas justement de cette question, et je sais qu'il y a, je crois que c'est à, je ne sais plus où, dans une autre maison d'arrêt du Nord, le problème s'était posé aussi. Le préfet ne voulait pas transférer les patients de l'établissement pénitentiaire à l'établissement hospitalier pour des raisons sécuritaires. Bon, il y a donc l'avis sur les HO qui sort demain parle de ça, mais il parle également de certains départements où les préfets ne lèvent pas les hospitalisations d'office pour des raisons sécuritaires, bien sûr, liées à la circulaire du 7-8 janvier 2010, merci. Puisque qui donne beaucoup de pouvoir au préfet, et alors dans certains endroits, on a vu des départements où il n'y avait plus du tout de levée d'HO. Donc il y avait des personnes qui rentraient en HO et qui ne sortaient plus. Bon. Et les sorties d'essai qui étaient en cours, bien sûr le préfet ne les annulait pas parce qu'il connaît la loi, mais quand les psychiatres demandaient le renouvellement au terme de la sortie d'essai, le préfet réintégrait les patients en sortie d'essai d'HO, bien sûr. Alors un point quand même important, c'est que dans les départements entre guillemets, avec 50 guillemets, touristiques, il y a des HO qui sont faites. Alors je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai vu une HO pour pourcent, il y a 10. Ah oui, c'est une maladie psychiatrique bien connue, hein, bon, psychosomatique certes, peut-être, mais alors ce monsieur était un SDF qui faisait la manche devant l'église d'une commune très touristique, d'un département très touristique. Et le maire fait un arrêté d'achat. Le seul problème, c'est que le psychiatre l'a confirmé. Et pourquoi l'a-t-il confirmé? Parce que je lui ai demandé quand même. Ben parce qu'il a eu peur que... Alors ce SDF faisait la manche depuis des années. Il avait une espèce de squat, il était très organisé dans sa vie. Il n'était pas jeune, il avait 55-60 ans. Il était absolument organisé dans sa vie comme ça. Le trouble à l'ordre public, c'était la mendicité en fait, hein, clairement. Et alors le certificat médical disait que trouble de mendicité agressive et psoriasis. Bon, très bien. Et le psychiatre, le 24 heures, il confirme. Moi je demande au psychiatre, voilà, il me dit bah oui, mais il y a un certificat médical qui dit qu'il est dangereux, bon, hein, et moi s'il se passe quelque chose, bah, c'est ma responsabilité qui est engagée. Et alors qu'est-ce qui se passe 15 jours après? Et bien le malade devient dépressif. Ce qui est absolument logique. Et à ce moment-là, on garde à l'hôpital parce qu'il est devenu suicidaire. Voilà, et donc on garde parce qu'il est suicidaire. Et voilà, bon. Alors, le problème, on rigole, mais c'est pas très très drôle. Et si c'était un cas, je vous en parlerai pas. Il y en a beaucoup, et dans les départements, enfin beaucoup, il y en a un certain nombre, et dans les départements touristiques. Alors, c'est soit chaud, soit gelé. Et le problème, c'est que après, pour les faire sortir, s'ils sont à chaud, notamment dans les départements touristiques, c'est justement ces départements où les préfets ne lèvent pas les achats. Voilà. Donc, je vais vous dire ça parce qu'on l'a quand même remarqué. Hein. Donc, voilà une partie de notre travail, plus tout ce qui concerne la contention, le placement à l'isolement. Alors, on a vu un hôpital, par exemple, où systématiquement, tous les patients admis en HL, en HDT et en HO avaient de l'imovane si besoin. Bon, ça évite plutôt des prescriptions de somnifères exagérées, du loxapax si agitation, en comprimé ou en intramusculaire. Je suis psychiatre, hein. Bon. Et troisième prescription, placement champ d'isolement si besoin. Systématique. Et l'infirmière, d'ailleurs les infirmières nous disaient dans quelle situation difficile elles étaient, puisque c'était à elles de mettre en champ d'isolement, notamment bien sûr la nuit, et le psychiatre n'était pas appelé. Donc le patient était mis en champ d'isolement, et il y avait des cas où il était mis en champ d'isolement parce que par exemple il avait voulu aller fumer après l'heure d'extinction des feux et de la dernière cigarette dans le patio ou dans la cour ou dehors, enfin selon les cas. Alors le patient qui n'était pas très content, mais pas du tout agité, enfin vous pouvez vous imaginer comme moi ce que je suis en train de dire. Donc le patient pas très content parce qu'on lui refuse la dernière cigarette, et bien on met en champ d'isolement jusqu'au lendemain matin. Et parfois le psychiatre n'est pas forcément au courant. C'est-à-dire que parfois, le lendemain matin, le patient est sorti de la chambre d'isolement. Et évidemment, ce n'est pas marqué dans le dossier médical. Bon, et donc, et l'infirmière est couverte puisqu'il y a une prescription. Voilà, bon, donc vous voyez que c'est. Il y a quand même des choses, c'est pas si rose que ça partout. Alors je ne dis pas que c'est comme ça partout, loin de là, mais on a encore du travail. Voilà. Si vous avez des questions, je ne veux pas vous retarder, mais en fait c'était ce que je voulais vous dire, surtout sur la vie, sur les achats et sur l'infirmerie psychiatrique pour demain, au journal officiel.
Merci.